Attends, j'ai pas allumé le bon micro. Voilà. Ah. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur Radio Free Gaza, sur Radio Air Libre et tantôt à 18h, ça va aussi passer sur Radio Panique. Bonjour Suzy.
Salut Hans.
Bonjour. Stéphanie n'est pas là aujourd'hui, elle doit s'occuper de ses chats, mais demain elle sera de retour. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé déjà le tracker sur globalsumutflotilla.org. Donc le tracker, c'est en fait c'est une carte où en temps réel, on peut suivre les bateaux. Et là, on voit que le spectre est déjà arrivé à Tunis. Tunis, on va en parler demain, parce que si tout va bien, demain, il y aura deux directs. D'un côté, il y aura un direct de la manifestation ici à Bruxelles. Il faut que tout le monde soit là. Et puis, il y aura un autre direct de Tunis. Mais bon, tout ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, nous avons Sadi qui va de nouveau nous faire une petite mise à jour de ses aventures. Et puis par après, on va écouter un deuxième entretien avec Michel Stachewski qui va nous décrypter des mythes sionistes et qui va nous parler des préjugés par rapport aux Juifs. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'appeler Sadi. Allô, bonjour Sadi, c'est Hans ici.
Yeah.
Yeah, tu es sur antenne là pour l'instant à Radio Air Libre. Hein?
Mm-hmm. Yeah. Allô.
Ça va?
Ja, zoals ik zei, het is hier een beetje onrustig op de boot, maar voor de rest.
Oké, dat begrijp ik. Maar de mensen die naar de radio luisteren, die begrijpen meestal of niet altijd Nederlands. Dus peut-être qu'on peut parler en français, du coup.
Oui, oui, oui. Voilà, on va parler en français. Très pas bien. De problème. Ouais,
ok. Ok, comment ça va? Vous êtes où là maintenant?
Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc voilà, c'est Sadi. Et donc moi, je suis en train de naviguer avec tous les autres bateaux. On essaye de rester un peu ensemble, donc tous les bateaux. Ce n'est pas toujours qu'on se voit, mais de temps en temps, je vois un autre bateau qui passe. On est en route vers Tunis. Et je crois qu'on a quand même fait beaucoup de chemin maintenant et que demain, on va arriver à Tunis.
Okay.
Et pour ceux qui veulent, on peut nous suivre aussi. Je ne connais pas le link, mais peut-être vous connaissez. Donc, il y a un tracker où vous pouvez suivre tous les bateaux. Et mon bateau s'appelle Estrella Emmanuel.
Ah, voilà. Ben oui, on peut voir, je confirme, on peut voir votre bateau sur le tracker, tout à fait.
Ok, très bien.
Voilà. Et donc, rappelle-nous, c'est Estrella Emmanuel, ce n'est pas un voilier, non?
Ça, c'est un vieux bateau de pêcheur.
Oui.
Ouais. Et pour parce toi, qu'il y a quelques bateaux qui sont un peu plus grands. Et je crois que notre bateau, c'est le petit des grands, on va dire. Mais c'est un vieux bateau avec pas de confort, vraiment rien du tout. Mais il est assez, il est assez bien pour sur la mer. Donc, c'est un bateau qui va pas avoir beaucoup de problèmes, j'espère, Inch'Allah. Mais les autres bateaux sont peut-être un peu plus faibles parce que il ne fait pas toujours beau, il y a beaucoup de vent et tout ça, beaucoup de vagues, donc c'est quand même difficile.
Oui, et qu'est-ce que vous faites comme ça en journée sur le bateau?
Oui, il y a des gens qui croient qu'on s'ennuie, mais ce n'est pas du tout le cas. On est ensemble, on discute entre nous, on chante des chansons révolutionnaires pour avoir un bon moral pour arriver à Gaza. Et puis, ce qui est aussi important, je crois, que comme je suis en train de faire maintenant moi-même, on discute aussi avec des gens qui ne sont pas avec nous, parce qu'il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre sur Instagram, qui ont plein de questions. Moi et des autres, on fait des lives, on fait des interviews et tout ça. Donc, c'est ça qu'on fait aussi parce que c'est vraiment très important qu'on parle de Gaza. Et le flotilla, c'est une manière de parler sur Gaza. Et donc, je crois que c'est très important. Et voilà, c'est ça qu'on fait aussi. Donc, on est très occupé, on peut dire même. Ouais. Oui.
OK. Oui, normalement, on avait prévu de discuter avec Doris, mais elle s'occupe d'une personne qui est malade et qui est dans un hôpital sur Menorca, si j'ai bien compris. Donc, on pense à eux, hein, oui, très fort.
Oui.
Donc, parce qu'il y a quelques bateaux qui devront aller à, qui vont arriver un peu plus tard à Tunis, je pense.
C'est possible, mais on essaie d'être en solidarité. Donc, c'est pour cela que nous, par exemple, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais on roule, c'est pas rouler peut-être le mot, mais pas trop vite. Ce qui n'est pas bien pour un bateau de pêcheur parce qu'il peut casser les vagues, il ne fait pas. Et on fait ça aussi pour avoir un peu le même rythme, pour rester ensemble, parce que oui. c'est ça aussi le but. Plus encore après Tunis, mais maintenant, on reste ensemble. Et il y a quelques bateaux, c'est pour cela que peut-être quelques bateaux peuvent encore nous joindre, parce que ça, c'était déjà le cas. C'est pas là, il y avait d'autres bateaux qui avaient des problèmes, et à chaque fois, les gens, les participants, the crew of des bateaux n'ont pas lâché. Chaque fois, à nouveau, ils ont réparé le bateau et ils sont repartis à nouveau. Je crois, maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des gens à Menorca. Ça m'étonne, mais c'est possible. Mais on peut toujours avoir un problème pendant la route. Il y a bien sûr aussi des autres bateaux, parfois, qui peuvent aider et on nous aide. Parce que nous, on a aussi un médecin dans notre bateau. Puis on l'avait appelé aussi en fait pour aller aider. Peut-être c'était les mêmes personnes maintenant où Doris est, mais on l'avait appelé pour venir aider. Mais puis on ne savait pas quel bateau c'était et donc voilà. Sinon on était parti nous en bateau vers un autre bateau pour l'aider. Donc on reste vraiment ensemble en cas de problème. C'est pour ça que ça va un peu plus lent.
Oui. Et donc demain, vous allez arriver à Tunis, si tout va bien.
Oui.
Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir directement ou vous restez un moment là-bas?
Je crois qu'on va partir, je ne sais pas, je crois qu'on va partir lundi, mais maintenant je ne sais plus, parce que dimanche, c'est le 7, je sais pas, mais de toute façon, ils nous attendent pour partir ensemble. Parce que c'était ça le but, parce que normalement, on devait déjà être là-bas le 4. Donc, on va arriver demain, ça c'est sûr, on va dire. Et puis, on va partir peut-être aussi faire quelques courses, parce qu'il y a toujours dans un bateau des choses qui manquent ou des choses qui cassent. Et on a des gens aussi là-bas à Tunis qui sont là pour nous soutenir. Donc, comme ça, on peut vite aller à Tunis pour chercher des trucs. Donc,
Ok, ça dit très, très bien. Nous vous souhaitons bon vent, en tout cas.
Oui, ça, c'est très important. Et moi, je vous souhaite aussi une très, 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 très bonne manifestation demain.
Oui.
J'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de gens parce que je crois que c'est vraiment très important de parler de Gaza et aussi de parler de nous, en fait, parce que nos gouvernements ne veulent pas, jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas nous soutenir tant qu'il y a des autres pays qui soutiennent leur délégation, comme l'Espagne, par exemple.
Oui.
Ils ont dit publiquement, nous, on est derrière notre délégation sur les bateaux. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas seulement important pour moi. C'est vrai, c'est pour moi aussi important. Mais c'est pour tout le monde important. Et d'abord, pour Gaza, en fait. Parce qu'il faut que ce flotilla fait aussi bouger le gouvernement, fait bouger l'Union européenne, fait bouger tout le monde, en fait, pour stopper le génocide.
Oui, tout à fait. Oui, ben, je pense qu'on sera nombreux demain à la manifestation. Hein. Ça a l'air, en tout cas. Bah voilà, donc je vous souhaite un bon vent et une bonne arrivée à Tunis. Et puis
merci
on va certainement encore s'entendre dans les jours qui viennent.
OK, très bien. Merci beaucoup et merci. À plus tard alors.
À plus tard, au revoir.
Oui, au revoir.
Voilà. Et maintenant, nous allons passer l'interview, une des interviews qu'on a fait avec Michel Stachewski sur le décryptage des mythes sionistes et des préjugés par rapport aux Juifs. Bonne écoute.
Il y a un petit théâtre ici, hein.
Bonjour, Michel Stachewski.
Bonjour.
Votre livre est intitulé « Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés et entrevoir demain ». Je propose qu'on parle un peu de déconstruire mythes et préjugés. Quels sont les mythes que vous essayez de déconstruire et quels préjugés ?
Bon, alors je vais vous parler de trois mythes. Qui me semblent peut-être les plus forts. Donc ce sont des mythes qui justifient le projet sioniste, le projet de créer un État juif en Palestine. Alors, il y a un mythe qui a vraiment la peau dure, qui est le mythe du retour. Donc l'idée que les Juifs retournent en Palestine après 2000 ans d'exil. C'est purement mythique. Il n'y a pas eu d'exil des Juifs. Il y a peut-être eu quelques dirigeants à un moment donné qui ont été exilés, mais la grande majorité des Juifs de Palestine sont restés là-bas. Alors, comment se fait-il qu'il y a beaucoup de Juifs ailleurs ? Ben, en fait, c'est lié à des conversions. C'est-à-dire que la religion juive, qui maintenant n'est plus une religion prosélyte comme l'islam ou comme le christianisme, qui sont des religions à vocation universelle, en fait, le judaïsme a été une religion prosélyte dans l'Antiquité. Et ça a marché. Le judaïsme était en concurrence avec le christianisme, il était aussi en concurrence avec d'autres religions. Et ça a marché dans pas mal de cas. Donc il y a eu des conversions individuelles, bien en dehors de la Palestine. Et il y a aussi eu des conversions de dirigeants, de monarques. Par exemple, il y a eu un royaume qui s'appelle... dans l'actuelle Turquie, qui s'appelait le royaume d'Adiabène, je crois que c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a eu le grand royaume Khazar au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, où le roi s'est converti. Le royaume Khazar, c'est plus que le territoire de l'Ukraine actuelle, c'est une partie de la Russie du Sud et même jusqu'au Caucase. Il y a eu au Yémen aussi, il y a eu une déconversion. En Éthiopie, il y a eu une reine berbère au Maroc, donc au Maghreb. Et tout ça explique l'existence de communautés juives importantes. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'au moment où les sionistes arrivent en Palestine, fin 19e siècle, pourquoi est-ce qu'il y a peu de juifs en Palestine ? Ben, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu des conversions, c'est-à-dire des conversions au christianisme et puis des conversions à l'islam. Et que donc, on peut penser que beaucoup de Palestiniens d'aujourd'hui sont les descendants des Juifs d'il y a 2000 ans, mais qui se sont convertis d'abord au christianisme et puis à l'islam. Et une petite minorité sont restés Juifs. Puis il y a d'autres Juifs qui sont arrivés au fil des siècles en petit nombre, mais pas avec le projet de créer un État juif, hein, avec le projet de s'installer près des lieux saints, quoi. Voilà. C'est des Juifs religieux. Voilà, donc ça c'est un mythe. Et donc, quand les sionistes justifient ou disent qu'ils ont le droit de créer un État juif parce que c'est simplement le retour, c'est complètement mythique. Ben, admettons même que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ils auraient plus le droit de retourner là-bas que d'autres qui ont si... Enfin, voilà. Donc, mais de toute façon, c'est un mythe. Un autre mythe, c'est la civilisation judéo-chrétienne. Alors ça, c'est un truc qu'on nous ressort tout le temps. Il y a d'ailleurs un livre que je recommande qui est sorti récemment, après le mien, qui a été écrit par Sophie Bessis, qui est une juive d'origine tunisienne et qui a écrit un livre là-dessus, sur le mythe de l'assimilation judéo-chrétienne. J'ai oublié le titre exact du livre, mais c'est ça. C'est un livre qui est sorti cette année. Très intéressant, un petit livre, et qui démonte ce mythe de l'assimilation judéo-chrétienne. Il n'y a jamais eu de civilisation judéo-chrétienne. Il y a eu, au moment de la naissance du christianisme, on a parlé de judéo-christianisme, parce que ce sont des juifs qui ont créé le christianisme. Donc il y avait effectivement quelque chose de commun, et il y a un passé commun, etc., au niveau religieux. Mais quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, en fait, à notre époque, on instrumentalise ça pour en faire une espèce de bloc judéo-chrétien contre l'islam. Et même dans le monde musulman, il y a de la part d'une certaine partie de l'opinion publique, il y a une intériorisation de ça. Un certain nombre de musulmans se voient contre le monde judéo-chrétien, comme si c'était un monde unifié. Ça n'a pas de sens historiquement, parce que dans le monde chrétien, les juifs ont beaucoup été persécutés, surtout depuis le temps des croisades, c'est-à-dire depuis le XIe siècle. Et donc, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Il y a une civilisation chrétienne qui dominait une petite minorité juive, qui n'était pas du tout une civilisation commune, quoi. Voilà. D'ailleurs, en passant, les juifs ont beaucoup plus été persécutés dans le monde chrétien que dans le monde musulman. Il y a aussi eu des persécutions, il y a aussi eu des discriminations, mais beaucoup moins fortes sur le long terme. Voilà. Donc voilà un autre mythe. Et alors, un troisième mythe dont j'aimerais bien parler, c'est le mythe de Israël état refuge. Parce que les fondateurs du sionisme ont dit, nous avons besoin, vu les persécutions que nous avons subies, avec aussi le mythe du fait que les juifs auraient été persécutés tout le temps et partout, ce qui est aussi mythique. Il y a eu beaucoup de persécutions des juifs, comme de toutes les minorités religieuses du temps où la démocratie n'existait pas, la tolérance religieuse n'existait pas. Il y a eu des persécutions, mais pas tout le temps, pas partout. C'est pas quelque chose d'intangible. Parce que le sionisme est une idéologie extrêmement pessimiste qui considère qu'on ne peut pas réussir à vaincre l'antisémitisme, donc la haine des juifs, et que la seule solution, c'est de vivre à part dans un État fort. Et c'est ça, la création de l'État d'Israël, c'est cette idée d'État refuge soutenu par une grande puissance. Alors, ça a été longtemps le Royaume-Uni, maintenant c'est surtout les États-Unis et l'Union européenne dans une certaine mesure. Et donc, Israël serait l'État refuge des juifs. Et il y a beaucoup de juifs qui, en toute bonne foi, sont contents qu'Israël existe en tant qu'État juif parce qu'ils se disent, si jamais des persécutions reprennent, comme l'épouvantable génocide des Juifs par les nazis au milieu du XXe siècle, au moins on aura un endroit pour se réfugier. Mais moi je dis que cet État-refuge, c'est un mythe, parce que quel est l'endroit du monde où les Juifs meurent le plus de morts violentes? C'est en Israël. Et pourquoi c'est en Israël? Mais parce que les Palestiniens sont persécutés et résistent, et une partie d'entre eux résiste de manière violente. Voilà. Et donc jamais l'État d'Israël n'a été un refuge pour les Juifs. Au contraire, c'est là qu'ils meurent le plus, de morts violentes. Moi, je suis juif, je me sens beaucoup plus en sécurité en Belgique que je serais en Israël. Bon, en plus, je suis un opposant, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le mythe de l'État refuge. Et donc, pour moi... Israël pourrait être un État refuge pour les Juifs, à condition que ce ne soit plus un État juif. C'est-à-dire que ce soit un État où les gens vivent en paix entre eux, là-bas. Et alors, on peut très bien imaginer que des Juifs qui seraient persécutés dans le monde, en vertu des lois internationales sur la protection des personnes persécutées, seraient bien accueillis, surtout dans la mesure où une des deux grandes communautés nationales, ce sont des Juifs, justement. Donc, il y a des chances qu'ils soient bien accueillis, quoi. Voilà. Mais et pas sous la menace des Arabes du coin qui pourraient leur en vouloir. Parce que ça, c'est encore un autre mythe. Hein. Le mythe que les Arabes et les Juifs seraient des frères ennemis, entre guillemets, depuis tout le temps. C'est faux aussi. C'est encore un mythe. Il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu une très bonne entente entre tous. On connaît le cas du Maroc, où il y avait une grande communauté juive, et où ça se passait plutôt bien, quoi. Voilà. Bon, alors vous m'avez aussi demandé les préjugés concernant les Juifs, parce que je pense aussi que ça fait obstacle à une bonne compréhension de ce qui se passe. Je vais juste en parler d'un, c'est la confusion entre Juifs, Israéliens et Sionistes. Le mouvement sioniste a longtemps été très minoritaire parmi les Juifs. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il est vraiment minoritaire. Il est quasi absent en dehors de l'Europe et des États-Unis. Et il est minoritaire en Europe et aux États-Unis. C'est le traumatisme de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc du génocide des Juifs par les nazis, qui a fait que le sionisme est devenu une idéologie majoritaire chez les Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Majoritaire, mais pas celle de tous les Juifs. Il y a toujours eu des opposants. Il faut savoir qu'avant la guerre, il y avait, parmi les opposants, il y avait les Juifs religieux. La grande majorité des Juifs religieux étaient contre le sionisme, disant que c'était blasphématoire vis-à-vis de la volonté divine, parce que il fallait que le Messie soit revenu pour que le rassemblement des Juifs en Palestine puisse être envisagé. Pas la création d'un État, mais un rassemblement auprès des lieux saints. Voilà. Y avait l'opposition des Juifs libéraux, qui étaient pour l'assimilation dans les différents pays, avec juste la revendication d'avoir le droit à leur propre religion. C'est tout. Il y avait aussi l'opposition de toute la gauche juive, c'est-à-dire les socialistes, les anarchistes, les communistes, les trotskistes, enfin, tous ces courants-là étaient anti-sionistes, Et c'était des courants pas négligeables à l'époque. Voilà. Et donc, après la guerre, à cause du traumatisme, une majorité des Juifs ont adhéré au sionisme. Et c'est devenu tellement massif que des gens ont commencé à faire la confusion entre Juifs et sionistes, entre Juifs et Israéliens. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais à l'école, c'était le dernier jour de l'année scolaire, le 30 juin. Et il y a un collègue qui pourtant connaît mes opinions critiques vis-à-vis de l'État d'Israël, qui me pose la question comme ça. Il me dit « Tu retournes dans ton pays cet été ?» Alors je le regarde et je lui dis « C'est quoi mon pays à ton avis ?» À ce moment-là, il se rend déjà compte qu'il a dit une bêtise. Parce qu'évidemment, pour lui, je suis juif, donc mon pays, c'est Israël. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les Juifs ont une double nationalité, qu'on a automatiquement la nationalité israélienne. Ce n'est pas vrai. Il faut la demander pour l'avoir. Voilà. Et il faut prouver qu'on est juif selon les lois religieuses. Voilà. Ou les lois de l'État d'Israël, qui ne sont pas tout à fait les lois religieuses. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une confusion. Je vais ajouter quelque chose concernant le lobby juif. Parce qu'on parle... Beaucoup de gens utilisent cette expression « lobby juif ». Je trouve qu'on a tort d'utiliser cette expression. Il est vrai que dans les lobbies pro-israéliens, il y a des juifs, même beaucoup de juifs. Aux États-Unis en particulier, là où les lobbies pro-israéliens sont les plus forts, les plus efficaces. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est là qu'il y a le plus de juifs dans le monde, à part en Israël. Il y a à peu près le même nombre que de juifs israéliens. Hein, alors qu'en Europe, ils sont devenus beaucoup plus minoritaires. Le pays en Europe où il y a le plus de juifs, c'est la France. Ils sont entre 500 000 et 700 000, on ne sait pas très bien. Ce qui est quand même, dans un pays de 60 millions d'habitants, c'est quand même une petite minorité. En Belgique, les juifs sont estimés à 30 000 environ, sur 11 millions d'habitants, c'est très peu, etc. Aux États-Unis, ils sont quand même plusieurs millions, 6 à 7 millions, on pense. Mais dans un pays de 350 millions d'habitants, c'est quand même une petite minorité démographiquement. Et le lobby pro-israélien aux États-Unis n'est pas du tout composé que de juifs. Et tous les juifs ne font pas partie du lobby pro-israélien. Le bloc le plus influent, le plus important démographiquement et aussi financièrement, c'est le lobby chrétien sioniste aux États-Unis, qui est plus ancien que le lobby juif, que la partie juive du lobby, on va dire. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est important. Moi, je dis toujours, arrêtons de parler de lobby juif, parlons de lobby pro-israélien, dans lequel on reconnaît qu'il y a des juifs, même pas mal de juifs, mais c'est pas eux qui dominent. C'est pas eux qui dominent, en tout cas aux États-Unis, où ce lobby est le plus puissant. Et beaucoup de juifs, et de plus en plus de juifs, vu la politique menée par l'État d'Israël, sont hors de ce lobby et contre ce lobby. Donc, distinguons bien juifs de sionistes.
Merci beaucoup, Michel.
Il y a interdit d'être ici. Hein.
Voilà, c'était l'émission pour aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, surtout, allez à la manifestation demain. Si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez toujours nous écouter à 15h30 de nouveau avec un direct de la manifestation et aussi un direct de Tunis où donc, plusieurs bateaux vont arriver demain. Voilà, c'est tout. Merci Suzy encore une fois pour la technique et à demain.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.